France Inter. Quand un champion du monde qui prépare les Jeux rencontre un champion olympique qui organise les Jeux, de quoi parle-t-il ? Du sport qui occupe leur esprit depuis toujours. Comment devient-on deux champions d'une telle trempe ? Comment voit-on le sport chez l'autre, le sport des autres, les hauts et les bas de l'autre ? Quels souvenirs des Jeux ont-ils gardés ? Et quels espoirs nourrissent-ils pour cet été ? Rencontre exceptionnelle entre Tony Estanguet et Thierry Henry. Avec eux, on réécoutera des archives historiques, on se projettera sur une piste futuriste et Claude Ascolovitch et son esprit, bien sûr, accompagneront cette conversation de champions. Nous sommes le dimanche 17 mars et il va bien finir par faire beau. Allez, on inspire.
L'esprit sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
Et exceptionnellement, nous n'avons pas choisi un, mais deux extraits pour ouvrir cette émission. Le premier, vous allez le reconnaître, nous sommes à Saint-Denis, le 12 juillet 98 au Stade de France. Le second, à Sydney, le 18 septembre 2000, au Stadium de Penrith.
À gauche, à gauche.
Petit. Et but.
Et troisième
et but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Le temps à battre, 233-76. Apparemment, Tony Estanguet est en avance. Tony Estanguet qui va devenir champion olympique probablement. 233-76, 231-87. Tony Estanguet, champion olympique du canoë monoplace, une médaille supplémentaire pour la France.
Vos deux premiers titres de votre et vos très longues carrières, messieurs. Bonjour Thierry Henry.
Bonjour.
Bonjour Tony Estanguet.
Bonjour.
Cette rencontre, elle est née d'un désir commun de vous faire converser parce que vous êtes, je l'ai dit, deux grands champions du sport français et que moi, ça m'intéresse de savoir ce que ces deux-là ont à se dire. De ce début de carrière, vous étiez jeunes l'un et l'autre, à votre reconversion. D'abord, si vous deviez définir Thierry Henry, Tony, vous diriez quoi ?
D'abord, moi, j'ai envie de le remercier. J'ai envie de le remercier parce que cette victoire en 98, elle a énormément compté pour l'athlète que je suis devenu. À l'époque, j'entrais en équipe de France, je nourrissais un rêve olympique et j'ai été vraiment inspiré par cette victoire des Bleus de 98. Je pense qu'on l'a vécu avec l'équipe de France de canoë-kayak, comme beaucoup d'équipes de France pensent partout dans le pays. On était tous derrière cette équipe de France de foot. Et moi, elle a ouvert en moi, il y a eu un déclic en moi en me disant « mais ça y est, l'équipe de France est championne du monde en football ». Bah, tout est possible et pourquoi pas être champion olympique 2 ans plus tard. Donc merci Thierry.
Thierry ?
Bah, merci, j'étais pas seul, donc merci.
Non mais quand même, vous aviez conscience que ce moment-là était quand même un énorme déclencheur pour quasiment toute une génération.
Ouais, mais je peux pas parler de ça sans parler de 84, donc moi c'est pareil pour moi, j'ai vu...
84, l'Euro.
Et les JO.
Et les Jeux à Los Angeles.
Exact, et j'ai vu cette génération gagner, donc je me suis dit que c'était possible et... Oui, après j'ai rencontré pas mal. Teddy me l'a dit aussi une fois. Teddy Riner me disait que ça l'avait inspiré. Non, non.
Vous étiez jeune, hein, vous aviez 20 ans.
En même temps, ouais, moi j'avais 20 ans, j'allais sur mes 21, donc ouais, quelque part un peu inconscient, tu viens jouer un tournoi.
Et tu le gagnes.
Je voyais en fait ce que ça représentait dans les yeux des anciens, parce que les gens oublient quand même. On rate 90, on rate 94.
On a beaucoup perdu, oui.
Non, mais et puis surtout pas se qualifier. Mais avant de continuer, pardon, et puis il faut
alors,
que je réponde.
Tony
oui, voilà, parce qu'on parle de moi. Et moi, personnellement, c'est le fait d'être seul. Mm. Quand t'es dans le canoë-kayak, t'es seul. Et je crois que je suis plus vieux que toi d'un an.
77, ouais. Vous et vous
78, ouais, on va dire qu'on est à quelques mois près de la même.
Et pareil, l'inspiration en te regardant, c'est ça. Sur un terrain de foot, ton pote, il peut t'aider, ton équipe peut t'aider. Tu peux sortir une erreur. Je rate un face-à-face, il y a toujours 0-0. Je rate un pénalty, bon, tu peux toujours revenir, ou tu perds un match, là tu rates ta course. Une course, c'est pas la seule, mais en l'occurrence, on parle des JO, c'est tous les 4 ans. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que gagner la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, faut être là, faut être bon, faut pas faire d'erreur, faut être dans l'équipe. Mm. Mais moi, ce qui me frappe déjà, c'est, t'es seul. Et comment t'as réussi à gagner à Londres ? Tu perds, et c'est 8 ans après. 8 ans. C'est ça qui m'a, moi, qui m'a inspiré personnellement. Comment
enfin,
il a.
Toi, t'as une carrière aussi qui a énormément duré. Et...
Oui, mais.
Moi,
mais...
ce qui m'inspire vraiment dans ce qu'ils ont fait en 98, c'est que je crois qu'ils ont décomplexé le sport français. Mmh. Et ça a ouvert des champs des possibles de manière incroyable. Le foot, ça reste la locomotive, qu'on le veuille ou non, du sport français. Et ce groupe dont tu faisais partie. Ça nous a tous fait beaucoup de bien, quoi.
Je voudrais savoir ce que le sport représente dans vos vies. Tony, vous dites souvent, moi, le sport a changé ma vie. Thierry, la vôtre aussi.
Ça, c'est sûr. Moi, c'est un état d'esprit. Peu importe le sport à la télé, je le regarde. Peu importe le match à la télé, je le regarde. Si je zappe, il y a un sport que je ne connaissais pas, je regarde, j'essaie de comprendre les règles. Ou si je n'ai pas compris les règles, je vais sur Internet pour essayer de comprendre les règles. J'essaie de voir ce que je peux voler dans ce sport pour le ramener dans le mien. Peu importe ce que j'ai à ramener, le passé à quelqu'un aussi, l'assimiler, tout. Je vais un peu trop loin parfois. Mais ouais, il y a toujours quelque chose à prendre.
Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports?
Oui. Ben, bien sûr, un truc assez logique, l'athlétisme. J'allais vite, les jambes, le haut de mon corps, il est super petit. C'est vrai, quand je suis assis, les gens ils pensent que je suis... Et quand je me lève, mes jambes elles sont assez longues. Donc oui, je savais que tu as l'impression, tu as toujours l'impression quand t'es petit que tu peux tout faire. Et puis après, tu rencontres des gens qui sont un peu meilleurs que toi dans certains sports. Tu dis, bon, on va rester dans le football quand même. Mais très vite, hein, j'ai été plus vers le foot, ouais.
Et Tony Estanguet, il a fait un autre sport.
La consommation ultime du sport, comme Thierry Henry, c'est votre cas aussi.
Ouais, moi je suis tombé dans une famille de sportifs. Mon père était prof de sport, donc il nous a un peu fait toucher à tous les sports, notamment les sports en extérieur, de nature. Donc on a fait beaucoup de ski, on vient du sud-ouest, dans les Pyrénées,
on a fait
du surf. On a touché un peu à tous les sports. Alors moi, je viens d'une région où il y avait un peu moins de foot, donc j'ai plutôt en sport co, j'ai plutôt joué un peu au basket et un peu au rugby. Mais effectivement, j'ai eu jusqu'à 12-13 ans cette éducation sportive dans pas mal de sports.
Mm-hmm. Mais juste un truc, vous, c'est sport co, vous, c'est sport individuel, c'est quelque chose sur lequel vous avez insisté au début de cette conversation, ouais. Thierry. Vous auriez pas pu faire un sport tout seul?
Ben, je ne sais pas, je ne le saurai jamais en même temps, mais il y a une grande admiration parce que dans un match de foot, si un mec il n'est pas bien, tu peux, mets-toi au milieu, j'irai 5-10 minutes sur le côté et récupère. Là, il n'y a pas de 5 minutes sur le côté, récupère, si tu te loupes, tu te loupes.
Et à partir d'un certain niveau, chaque joueur est quand même décisif, donc
oui.
Vous avez tous une responsabilité très importante aussi. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'au final, sport individuel, sport collectif, il y a quand même beaucoup de points communs. Mmh. Parce que dans le sport individuel, on ne peut pas gagner si on n'a pas des partenaires d'entraînement. Il faut savoir donner un peu aux autres pour pouvoir progresser. Il y a toute une équipe, les partenaires ne sont pas loin, l'entraîneur. Il y a quand même une dynamique très collective, y compris dans les sports
individuels. On ne se sent pas seul dans son canoë quand on dévale plan d'eau.
Oui, quand même. Il y a des moments, mais on aime ça aussi. On aime être... Moi, j'aimais ces 3 minutes, parce qu'aux Jeux Olympiques, il fallait être 3 minutes avant dans le start. Donc là, vous savez que vous êtes un peu seul au monde. Et que ça fait 4 ans que vous vous préparez pour ce moment-là. Et dans ces 3 minutes-là, bah dans votre tête, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il faut réussir à transformer ça en une envie débordante de réussir sa course, quoi.
Alors, on va parler de l'un et de l'autre, de vos souvenirs de l'un, de l'autre, avec l'un et l'autre. On marque juste une toute petite pause. C'est Just Another Rainbow et c'est Liam Gallagher, quelqu'un que vous connaissez bien, mon cher Thierry.
Ouais.
C'était Liam Gallagher, Just Another Rainbow sur France Inter.
L'esprit sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
Et Thierry Henry et Tony Estanguet, on vous a demandé de choisir un son, un souvenir sonore de l'un et de l'autre. Tony, pour Thierry, vous avez choisi le Stade de France le 3 juillet 1998.
Allez, c'est tout sur Barthez.
Di Biagio, c'est fini. Et la France est qualifiée. La barre transversale qui renvoie la frappe de Di Biagio. La France demi-finaliste de la Coupe du Monde.
Quart de finale France-Italie avec les voix de Charles Bietri et de Thierry Gilardi. Pourquoi celui-là, alors qu'on a parlé de la finale tout à l'heure et de l'élan populaire ?
Quel stress ! Mais c'était dingue ces moments de tension, cette finale de tir au but où on a l'impression que tout peut s'arrêter quand on connaît la fin maintenant et qu'on voit à quel point ça a marqué tout un pays, toute une génération, ma carrière, enfin voilà, c'est l'un des mes plus grands moments que j'ai vécu de sport. Ça s'est pas joué à grand chose et c'était génial. Voilà, moi je me souviens quand t'étais avec Trezeguet sur cette séance de tir au but. Il y avait voilà, c'était chaud. C'était fallait prendre ses responsabilités. Enfin, c'est des moments que le sport nous réserve où tout peut basculer et c'est pour ça qu'on a la chair de poule à chaque fois parce que on sait pas de quel côté ça va basculer. Et les séances de tir au but au foot, à chaque fois, c'est chaud. Et ça ne sourit pas toujours. Donc quand ça sourit, il faut en profiter. Mais ce tir au but pour toi, là, 20 ans, quel souvenir t'en gardes ? Est-ce qu'en termes de stress, c'était l'un des plus gros stress de ta carrière ?
Je vais être honnête avec toi. Sur le moment, je n'ai pas fait attention à ça.
C'était dans l'action.
20 ans, t'arrives. Je repense un peu à tout. Je passais devant ce stade pour aller en sélection de jeunes quand il était en construction. Mmh. Et j'espérais avoir des places pour aller voir les matchs. Donc à un moment donné, mon coach me dit d'aller tirer.
Il vous pose la question de manière très particulière, Aimé. Il vous dit tu tires ou tu tires pas ? Et vous dites ouais, et il dit oui ou oui.
Ça s'est pas passé comme ça. Je sais pas si vous connaissez l'histoire ou pas, mais je vais pas.
Allez, vas-y, raconte.
Non, je vais pas citer de nom, ça implique d'autres personnes. Ça,
c'est pas grave, on les reconnaîtra.
Non, c'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style, mais je vais parler de moi.
Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas assumé.
J'étais pas non ou qui a justement assumé de ne pas pouvoir assumer.
Très bien, ça c'est très important.
Ça c'est aussi important, savoir que tu peux pas au moment où il faut. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et de par mon éducation, mon coach il me parle donc je le regarde. Donc quand il tourne, il cherche le regard de quelqu'un qui veut tirer. Moi je le regarde et il me dit Thierry et là je lui dis ouais. Il me regarde, il me dit oui ou ouais. Et là j'ai dit oui. Sans prendre vraiment conscience du... Je veux dire, t'es dans une équipe, c'est pour ça.
Wow.
Peu importe le moment, ça a été ton rôle, c'est ton rôle, peu importe qui, on a besoin de toi là. Donc moi, tout simplement, j'ai dit ouais au départ, et après, bon, j'ai dû dire oui. Et c'est tout, en fait. J'ai pas pensé, en fait, à ce qui pouvait se passer de mal. C'est là où, de temps en temps, quand tu vas tirer un pénalty et tu te dis, je vais peut-être le rater... négatif qui rentre dans ton corps, discussion dans la tête, pas terrible. Tout
ça
ce
n'est
que
donc pas une loterie.
Oh là là, je ne rentre pas dans ces débats. en tout cas, mon père, il est parti du stade. Il est parti.
Tu m'étonnes, la crise cardiaque.
Thierry, vous, je vous ai demandé un son pour Tony Estanguet et c'est ce fameux Londres.
Oui,
juillet 2012. Et on écoute.
Tony Estanguet s'élance sur le bassin d'Olivalet. Là-bas, au bout de ses 23 portes, il y a peut-être la troisième médaille d'or olympique de Tony Estanguet.
Ça, c'est de la glisse.
Allez, vas-y. Il est bien, Tony. Il est bien. Allez, le premier temps de référence par rapport à Marc Picon. Allez, Tony. Ouais, 41 centièmes d'avance. Faut pas s'envoler. Il est bien. On est sur la porte 10. Où le passage ? Faut pas lâcher, Tony. Faut rester comme ça. C'est bien.
Il y a
1,75 d'avance pour le Français. C'est énorme ce qu'il est en train de réaliser.
Là, regarde. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là. Il faut qu'il soit en haut.
Oui,
il est en train d'écrire l'histoire, Tony Estanguet.
Il est en train
de trois portes.
Allez,
de la
c'est la glisse maintenant.
Allez, Tony,
glisse,
le dernier stop pour le Palois. Oui, il a fait Tony Estanguet. C'est extraordinaire. Waouh. Eh bien, Tony Estanguet est champion olympique pour la troisième fois.
Oh là 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 là.
C'est la plus belle ou pas, Tony ?
Elle est belle, ouais. Non, c'est vrai que c'est, il y avait tout. Il y avait tout ce jour-là. C'était l'aboutissement de 20 ans de carrière et il y avait, voilà, beaucoup d'histoires perso, avec mon frangin, avec qui j'avais été adversaire, qui était mon entraîneur ce jour-là. C'était une revanche un peu après Pékin, 4 ans plus tôt, où j'étais passé complètement à côté.
Alors ça, magique. Ça nous intéresse. Parce que vous avez aussi choisi Londres parce qu'il y a eu Pékin. C'est-à-dire qu'on se relève d'un échec retentissant pour un double champion olympique que vous étiez à l'époque, puisque vous aviez enchaîné Sydney et Athènes.
C'est juste un chemin que... Enfin, je veux dire, commencer, gagner Sydney, Athènes, bien sûr, il y a eu Pékin, et terminer par Londres. D'ailleurs, les commentaires anglais, « The near perfect race ».
C'est la course quasi parfaite.
Donc c'est pour
c'est
ça. C'est... Et puis là, terminer comme ça, avec ce que tu viens de dire. Mais souvent, les gens, ils parlent de grandeur, de, comment on dit en anglais, excusez-moi, je fais du franglish des fois, de greatness. Mm. Pour moi, ça, c'est rester à un certain niveau, donc être constant, longtemps. Pour moi, c'est ça, la grandeur d'un grand champion. Gagner une fois...
C'est durer le plus dur.
Après, je dirais, bon, je vais pas dire que gagner une fois, c'est pas bien... Mais pour moi, rester en haut longtemps et surtout garder le même enthousiasme après une défaite, ça c'est un vrai succès pour moi. Quand tu arrives à toujours garder cette envie d'aller t'entraîner après Pékin, parce que t'aurais pu dire bon, c'est quoi, on m'a mis des balles, voilà, c'est bon, j'ai déjà fait, vous m'avez pas respecté,
j'ai
peu importe.
Trois fois les jeux,
ça va, c'est bon, laissez-moi tranquille, c'est bon. Mais toujours avoir cet enthousiasme. Après la défaite.
Et qu'est-ce qui vous rallume après la défaite ? Alors, messieurs, parce que vous avez connu, et l'un et l'autre, des moments difficiles. Qu'est-ce qui rallume ?
En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir connu ce moment de Pékin. J'ai vécu des moments dans l'année qui a suivi Pékin qui ont été très durs et super riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens aussi différent parce que j'ai perdu à Pékin. Et cette victoire, c'est vrai, à Londres, elle est encore plus forte. Presque parce qu'il y a eu Pékin avant. Donc, dans le sport, je pense qu'on apprend aussi à tomber, à se relever. La défaite est souvent un peu tabou, l'échec est souvent tabou. Dans le sport, ça fait partie de notre quotidien, entre guillemets. On
Certains disent qu'on perd plus souvent qu'on gagne,
exactement.
D'ailleurs.
Moi, dans ma carrière, j'ai perdu plus souvent que je n'ai gagné. Et c'est ça qui rend aussi la victoire exceptionnelle. Après, il s'agit de gagner au bon moment le plus souvent possible, mais aussi prendre ses responsabilités, sortir de sa zone de confort, se mettre au risque de perdre. C'est ce qui rend la victoire si belle. Et ça, moi, j'en garde un souvenir impérissable.
Thierry, aujourd'hui, vous transmettez, vous êtes le sélectionneur des espoirs, vous leur parlez de défaite ?
Je leur parle pas de défaite ni de victoire, je leur parle d'un aboutissement, un travail, un chef-d'œuvre. Et on verra où ça va te mener. Il y en a qui vont gagner beaucoup plus que d'autres, il y en a un peu moins. Mais est-ce que tu vas être en accord avec toi-même ? Ça, c'est le plus important. Et ce que vous voyez pas d'un champion, c'est ce qu'il accepte de faire quand personne le regarde. C'est pas seulement le terrain, c'est un tout. Comment tu vis, comment tu regardes le jeu ? Est-ce que quand t'es sur le terrain, tu es en train de vivre le match ? Est-ce que tu vois l'action avant qu'elle arrive ?
Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Non, non, mais personnellement, je pense que Tony n'a pas de pouvoir. Et moi, j'ai pas de pouvoir, je sais ça. Mais travailler, c'est un talent aussi. Il faut qu'à un moment donné, l'esprit de compétiteur de l'athlète rencontre un mec intelligent.
Et vous, ça a été Arsène Wenger.
Arsène, Joachim Francisco Filho. On oublie souvent les coachs amateurs. J'ai eu un coach qui s'appelle Jean-Marie Panza qui a été très important pour moi. On parle toujours de l'arrivée, on ne parle pas des coachs, coachs amateurs. Et je me souviens de leur nom, je me souviendrai toujours de leur nom, je leur parle toujours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réveillé mon cerveau. Rendre un mec plus costaud, plus vite, dans la technique. Mais éveiller le cerveau d'un joueur pour qu'il puisse avant tout commencer à assimiler et analyser ce qu'il y a autour de lui. Après, oui, il faut peaufiner le pied gauche, il faut peaufiner le pied droit, il faut peaufiner l'espace, il faut peaufiner tout ce qu'il y a à peaufiner. Mais quand quelqu'un éveille ton esprit, ton cerveau en l'occurrence, ça, pour moi, ça n'a pas de prix.
Tony ?
Ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je me retrouve vraiment dans ce que dit Thierry. Moi, j'ai l'impression d'avoir appris tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Et je l'ai appris parce que j'ai reçu... Alors, oui, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont dit inspire-toi, mais ça va être à toi de trouver ta voie. Ça va être à toi d'aller chercher ce que tu as vraiment au fond, est-ce que tu as vraiment envie de faire, ton style, ta prise de risque, est-ce que tu as vraiment envie d'aller chercher dans une course. Mais ça, je ne l'ai pas découvert tout seul. On m'a posé des questions, on m'a un peu titillé pour justement réussir à aller chercher plus loin à chaque fois. Mais oui, je pense que l'athlète de haut niveau, il arrive à être à l'écoute, à s'inspirer de ce qu'ont fait les générations d'avant. Et à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités, se dire, voilà, moi, je vais pas faire... Dans mon exemple, c'était mon frère qui était un peu mon exemple, mon mentor. Au bout d'un moment, j'ai dit, je ferai jamais mieux que mon frère si je sais de le copier. Donc, je prends mes responsabilités. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait. Il y en a d'autres qui m'inspirent aussi. Maintenant, je vais faire du Tony Estanguet. Et ça, ça a été un déclic, mais que mes entraîneurs m'ont inculqué aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre tout ce que j'ai appris en préparation physique, en préparation mentale, en préparation technique, et qu'à la fin, j'ai pris mes responsabilités.
Alors messieurs, on va parler de Paris 2024 et de ce défi majeur qui vous attend l'un et l'autre. Le temps pour nous de faire un petit tour de piste, une piste où vous en avez fait des tours d'honneur, mon cher Thierry. C'est la piste du Stade de France qui accueillera les épreuves reines d'athlétisme au mois d'août. Une piste qui sera entièrement refaite et qui ne sera pas orange, mais violette. Reportage à Gallo d'Alba, pas loin de Turin, dans les secrets de fabrication de ce revêtement révolutionnaire avec notre correspondant en Italie, Bruno Duvic.
Un technicien torture dans une machine une grosse masse de caoutchouc. Il teste la résistance de sa couleur. Le violet est un choix des organisateurs des Jeux. Andrea Marenghi est responsable recherche et développement.
Donc la chose la plus importante pour nous n'est pas choisir la couleur, mais garantir la tenue de couleur pendant les temps. Donc la résistance au rayonnement UV, la résistance à la pluie. Une piste d'athlétisme est dessinée pour garder ses propriétés pour 10 ans.
10 ans à se faire martyriser par les pointes des athlètes. Dans le labo, un grand bras mécanique répète inlassablement le mouvement d'une chaussure qui griffe la piste. Les plus redoutables sont celles des lanceurs de javelots.
Les athlètes utilisent des chaussures complètement différentes, avec des pointes beaucoup plus longues. Donc il y a un athlète de 100 kg qui s'arrête dans 2 mètres et qui doit s'arrêter tout de suite. Il transfère une force incroyable sur la surface.
La piste fait 1,3 cm d'épaisseur. Une bonne surface d'athlétisme accumule l'énergie donnée par le champion à chaque impulsion et la restitue au plus près de son mouvement. Pour cela, comme dans certains fromages, en dessous, il y a des trous dans le caoutchouc. Alessandro Piccedi dirige la recherche au sein du groupe.
Le développement des alvéoles, la forme géométrique de la matière, la part de vide, c'est ce qui, selon nous, permet d'obtenir les meilleures performances sur la piste.
Dans l'usine, une table présente les ingrédients, matière naturelle, synthétique, colorant, additif. L'entreprise assure que 50% des matériaux sont recyclés ou biodérivés. Maurizio Stropiana est le vice-président sport de Mondo. Son travail est presque terminé. Place aux artistes.
Et ovvio que il talento dell'atleta est fondamental.
Bien sûr, le talent des athlètes est fondamental. Notre rôle est de tout faire pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Les proprie migliori performance.
En bout de chaîne, la piste sort en longues plaques confectionnées en rouleaux pour l'expédition. Lors de la visite, une partie du couloir numéro 7 a été emballée sous nos yeux.
France Inter. L'esprit sport. Nathalie Yanetta.
Dernière partie de cette rencontre entre Thierry Henry et Tony Estanguet, les Jeux J-134 pour la cérémonie d'ouverture, 132 pour les tournois olympiques de foot. Vous ouvrez le bal le mercredi 24 juillet. Du coup, vous n'allez pas faire la cérémonie d'ouverture.
Oui, on est habitué au foot.
Vous n'avez jamais fait les Jeux, vous ?
Déjà, oui, pour commencer. Non, ouais.
Non, mais je veux dire, on ne fait pas la cérémonie, on n'est pas au village. Ouais. En fait, on fait vraiment les Jeux ou pas ?
Ben oui. Oui, non, mais c'est vrai que c'est à part parce que voilà, le stade est occupé en même temps, donc faut bien bouger. Et puis, du moment que tu es là, dans l'esprit des JO, aller chercher la médaille d'or pour la France, même pas pour le foot, pour la France,
oui.
c'est ça qui est vraiment beau quand tu penses aux JO. Je ne connais pas les JO, encore une fois, j'ai vu ça de très loin. Pour moi, les JO, c'est, on en parlait tout à l'heure en off, c'est Carl Lewis, c'est Edwin Moses, et après pour moi la plus grande, c'est Marie-Jo.
Alors Marie-Jo, la voilà.
Oh.
Vous parliez de Marie-Josée Pérec, c'est le son que vous aviez choisi. Je vous ai demandé un chacun un souvenir de jeu. Donc vous, c'est Marie-Jo, c'est le 1er août 96, elle va s'aligner sur le 200 mètres au Stadium d'Atlanta. Et vous, Tony, vous nous ramenez un petit peu plus loin, puisque nous sommes le 24 septembre 88 à Séoul, et c'est la finale de Carl Lewis.
Superbe départ de Ben Johnson, Carl Lewis est en retard mais il me semble remonter. Ben Johnson a gagné, Ben Johnson est en tête, Ben Johnson a gagné très nettement deuxième. Carl Lewis,
record du monde,
il est parti comme un bolide, comme une fusée, il pouvait carrément se retourner pour regarder Carl Lewis, il ne l'a pas fait bien sûr, mais il a gagné avec une aisance, avec une assurance exceptionnelle.
Voilà, départ correct de Marie-Josée avec sa grande foulée, mais Merlène Autet est partie très 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 vite, elle fait un superbe virage, Marlène Autet, Ognali aussi, et Marlène Autet va rentrer en tête. Est-ce que dans la ligne droite, Marie-Josée va pouvoir revenir? C'est pas sûr. Et Marie-Josée maintenant qui démarre, qui revient sur Merlène Autet. Si elle va passer, oui, elle va passer. Fantastique doublé extraordinaire. Marie-Josée Pérec est venue coiffer Merlène Autet dans 30 derniers mètres, sublissime. C'est Merlène Autet, la reine, qui est battue. C'est Marie-Josée Pérec, maintenant la reine de ces Jeux Olympiques.
Et la légende, c'était son doublé parce que trois jours plus tôt, elle avait gagné sur le 400. Pourquoi elle?
Là, j'écoutais le son, bien sûr, et j'avais des frissons. Je revoyais, bien sûr, la course, le doublé, battre Marlène Autet. Le style, la course, ses longues jambes, sa foulée, la classe, tout simplement. Vous savez très bien que ma vie, c'est le foot et tout ce qui s'ensuit, mais Marie-Jo passe au-dessus des lois pour moi. Moi, elle m'a transcendé, personnellement. Inspiré, transcendé.
Dès 92 à Barcelone,
d'ailleurs. Oui, aussi, 92 aussi, pareil, mais faire le doublé.
Et garder son titre aussi, parce qu'elle a réussi le back-to-back.
Garder son titre, mais faire le doublé et surtout empêcher Autet de gagner. Enfin, moi, c'est pas vraiment ça, parce que j'avais un énorme respect aussi pour Autet. Oui.
Non, c'est une cruauté absolue,
On va pas dire ça, mais... Ah, mais en même temps, tu dois courir contre Marie-Jo aussi, donc Mais bon, je vais revenir sur Marie-Jo, j'en bégaye.
Il y avait un enchaînement pour Marie-Jo à Atlanta. Quand elle était petite, sa grand-mère admirait Mohamed Ali. Et elle se disait, je veux être la Mohamed Ali de ma grand-mère. Mm. Et elle est couronnée, double couronnée à Atlanta, qui sont les Jeux de Mohamed Ali.
Exactement.
Où il monte, où il allume la flamme.
Qui est le dernier porteur de la flamme.
Et tout se tient. Il y a aussi, de sport à sport, d'homme à femme, de génération en génération,
une
très longue transmission. C'est pour ça qu'on est contents de vous avoir tous les deux. Une très longue transmission de l'histoire du sport.
Une légende. Une légende, et pour moi, la légende. Donc voilà, c'est assez facile.
Tony, vous, c'est l'autre légende. Carl Lewis, lui, il a 9 médailles d'or dans son histoire. C'est un truc de fou. Alors, évidemment, il ne gagne pas ce 100 mètres que nous avons entendu, puisque c'est Ben Johnson et qu'il récupère la médaille après le contrôle positif de Johnson. Mais pourquoi Carl Lewis?
Pourquoi Carl Lewis et pourquoi ce moment-là? C'est parce qu'effectivement, moi, j'avais 10 ans. C'était un peu les premiers jeux où je comprenais ce qui se passait. Et cet athlète dont tout le monde parlait, parce que 4 ans plus tôt, il avait fait ses 4 médailles d'or à Los Angeles. Donc, il arrivait ultra favori. Il y avait une intensité sur le 100 mètres, comme à chaque fois. Et il passe à côté. Et il y a la déception. Et en même temps, c'est la classe, Carl Lewis. Et donc, moi, c'est vrai que c'est un athlète qui m'a beaucoup inspiré.
C'est un des derniers aussi qui est sur deux disciplines, c'est-à-dire qu'il faisait le triple saut, il faisait le saut en longueur, il faisait du sprint. C'est rare, il n'y en a plus aujourd'hui des athlètes de cette envergure qui peuvent enchaîner sur plusieurs...
Exceptionnel, et effectivement, là, c'est pas pour rien qu'il a été d'ailleurs désigné athlète du siècle. Je pense qu'il a fait du bien aux Jeux Olympiques. Ouais. C'est une des grandes légendes. Et moi, j'ai grandi un peu avec des athlètes comme lui. Il y a eu aussi Michael Jordan en 92, un peu plus tard, avec la Dream Team. Donc c'est vrai que ces athlètes américains ça ont apporté quand même beaucoup aussi.
Mmh. Alors, ces Jeux à Paris, ce seront vos premiers, Thierry. Sauf votre respect, les questions qui vont se poser à vous dans les semaines, c'est de la gnognotte à côté de celle que affronter Tony. Est-ce que vous, en gros, ça va se résumer à la liste Mbappé, Griezmann, Giroud, Varane?
Oui,
c'est ça l'histoire
quand même.
En général,
c'est la liste Mbappé. Après, Mbappé.
Oui, beaucoup quand même. Et re-Mbappé aussi.
Mbappé.
D'accord, mais du coup, on aura quand Mbappé la réponse?
Exactement.
On ne sait pas.
La réponse viendra du Real. Parce que,
si Real il y a, on fait semblant.
Voilà, si Real il y a, oui, on se projette, allez.
Oui.
Mais non, le problème qu'on a, nous, justement, c'est que ce ne sont pas les dates FIFA.
Donc, en fait, alors, on rappelle pour nos auditeurs, oui, les dates FIFA, c'est des dates qui sont imposées dans un calendrier. Alors, il y a donc l'Euro, par exemple. Or, le tournoi olympique de football n'est pas une date FIFA. Les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs.
Donc, je pense que, et j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes avec les clubs français.
En tout cas, le président de la Fédé, il fait le taf avec les clubs français pour que vous ayez du staff.
Ça devrait être.
Maintenant, c'est ceux qui jouent à l'Atlético Madrid, par exemple. Décidément, il va y avoir beaucoup de négo à Madrid.
Si Madrid, il y a.
Voilà.
Ah bah, Madrid, alors non, cet non, Atlético, mais... il l'est.
Ouais, on verra bien. Je ne veux pas rentrer encore dans ces détails-là, mais non, le plus gros problème, c'est que de temps en temps, tu peux bluffer, tu peux attaquer, tu peux regarder, mais là, tu es vraiment, vraiment à la merci. Ouais, dépendant, tu n'as pas de carte en main et tu es obligé de demander poliment, gentiment, si on peut avoir nos joueurs et... On n'a pas cet appui.
C'est-à-dire que ce n'est pas possible de construire une équipe à l'avance comme peut le faire Didier. Comme, voilà.
Si c'était en fait des dates FIFA, il n'y a pas de discussion, ils sont obligés de venir. C'est-à-dire que là, sur les deux matchs qu'on va avoir là, pour les matchs de préparation, bien sûr,
la
semaine prochaine, on se retrouve dans une situation où ils sont obligés de venir.
Oui, bien sûr. Là, vous les avez convoqués, vous avez fait votre liste jeudi, comme Didier Deschamps a fait la
sienne. Pour des matchs amicaux, ils sont obligés de venir.
Et pour une compétition olympique, ils ne sont pas obligés. Voilà.
Mais on travaille, attention, et on a quand même une idée, il y a un plan, mais...
Là, pour le coup, il faut des plans B, voire
C,
des plans C.
D, E, F, on peut faire l'alphabet, ouais. Pas
vous
évident,
aussi,
mais c'est comme ça.
Tony, les plans B, C, D, vous avez fait tout l'alphabet. c'est l'aventure de votre vie depuis 2014. Maintenant, ça fait 10 ans que vous êtes dans cette aventure olympique. Vous irez pas sur les stades de foot, j'imagine.
Sûr que j'irai.
Non, mais vous attendez la finale au Parc des Princes le 9
mais
août, non
je ne sais pas si Thierry, d'ailleurs, le sait, mais... Le premier match de l'équipe de France sera à Marseille.
Absolument, le 24 juillet.
Marseille. On écho.
Et mercredi, vous connaîtrez vos adversaires. Et vous irez d'ailleurs chez
Tony. Premier match
Tony.
De la Coupe du Monde de 98, qui était aussi à Marseille. Donc j'espère que ça sera le même finish et la même victoire à la fin. Non, le foot au jeu, c'est important pour nous, effectivement, parce que c'est le sport qui permet d'avoir une vraie dimension nationale. On a 58 matchs, donc c'est très gros, le foot au jeu. C'est plus de 2 millions de billets à la vente dans des grands stades.
Ils sont pleins, les stades, ou pas, d'ailleurs?
Ils sont pas pleins, il reste des places.
Bah
Alors, c'est le sport où on a vendu le plus de billets.
Ouais.
Contrairement, beaucoup pensent que le foot au jeu, c'est pas important. Le sport numéro un au jeu, pour l'instant, où on a vendu le plus de billets, c'est le foot. On a vendu
Encore des places.
Mais il reste encore un peu plus d'un million de places. Ouais. Donc, n'hésitez pas, y compris pour les matchs de l'équipe de France, hommes et femmes, il reste des places sur tous les matchs.
Alors, comme on aura les affiches mercredi, puisque ce sera le tirage au sort pour les filles comme pour les garçons, et ben là, peut-être qu'on va...
Plus de ventes, ça, c'est sûr.
Ouais. Ouais, on compte sur vous, on a besoin de supporters pour soutenir ces deux belles équipes de France.
Moi, je serai sur le terrain. Non,
et je pense que ça promet d'être un beau tournoi. Moi, j'ai confiance en Thierry pour trouver des solutions. Je vois bien le casse-tête dans lequel il est. Mais on fait des grands trucs aussi, des fois dans la difficulté. Et je sens qu'il y a une envie très forte de réussir ce tournoi olympique pour l'équipe de France.
Tony, j'ai un dilemme depuis le début. Si je ne pose pas cette question, il y a plein de gosses qui vont m'en
vouloir. Toute la vie.
Est-ce que vous pouvez me promettre que vous allez rendre en bon état le terrain du Red Star Rugby qui va devenir un parking? Et est-ce que vous aurez des places pour les gosses du Red Star Rugby?
C'est pas la première fois que tu me poses la question.
C'est pas la première fois. J'ai peut-être des connaissances, mais c'est pas une blague. Et t'es sensible à ça. C'est des mots.
Oui,
qui et vont être déplacés.
On y travaille avec
Alors, est-ce
les
qu'il
élus.
Sera en bon état, le stade Pablo Neruda de la rue Salvadorienne
à
Saint-Ouen?
On fait tout pour qu'il soit rendu en bon état. C'est déjà formidable qu'on ait réussi à trouver des terrains pour qu'il puisse continuer à jouer pendant les Jeux à proximité. Et ce stade sera rendu.
Et est-ce que Tony Estanguet veut venir visiter le Red Star Rugby de temps en temps? Les gosses, ils adoreraient. Ils seront gentils.
Avec grand plaisir.
Tu as joué au rugby?
Je suis allé au Red Star foot il y a peu de temps, là, il y a 3 semaines. Et avec plaisir pour aller
stade
voir
mythique.
Le.
Là, il va être un petit peu occupé, mais on ira ensemble la saison prochaine.
Non, il a dit qu'il viendrait.
Pour rétablir. pour voir si le stade a été rétabli. Merci beaucoup, merci Thierry Henry, merci. Et Tony Estanguet,
c'était
d'avoir accepté
merci.
Notre
merci.
Invitation. Merci. C'était un honneur pour nous de vous avoir face à face. Et merci à mon équipe du dimanche de la direction des sports avec son capitaine Alexandre Gilardi, Coy Nguyen à la réalisation, à la technique ce dimanche, Laurent Baudouin, et à la programmation musicale. Comme toujours, Jean-Baptiste Audibert.